Vous êtes sur RTL.
Ciel avec Yves Calvi, le petit déjeuner de campagne.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 15 décembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. On n'avait pas connu ça depuis le mois d'avril. Plus de 60 000 contaminations au Covid en 24 heures. 63 400 exactement et presque 2 800 malades en réanimation. On se dirige clairement vers le pic de la cinquième vague. Dans le même temps, le variant Omicron se propage à un rythme inédit. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à la plus grande prudence à l'approche des fêtes. Face à cette cinquième vague, le gouvernement mise sur la dose de rappel vaccinal et aussi sur la vaccination des 5-11 ans. Ça commence aujourd'hui uniquement pour les plus fragiles pour l'instant. Ceux qui souffrent de maladies chroniques, obésité, diabète, asthme, bien sûr, cela concerne 400 000 enfants. Il y a 3 semaines, il réclamait dans une tribune des moyens dignes pour la justice. Les magistrats, les avocats et les greffiers se mobilisent aujourd'hui. Ils vont se rassembler devant les cours d'appel partout en France. À Paris, symboliquement, ce sera devant Bercy. Hier, Éric Dupond-Moretti a tenté une opération déminage en présentant le bilan de la chancellerie depuis 2017. 700 magistrats supplémentaires et un budget en hausse de 30%. Le garde des Sceaux estime avoir réparé l'urgence. Au chapitre politique, c'est ce soir que sera diffusé le grand entretien qu'Emmanuel Macron a accordé à TF1 et LCI. Une interview d'une heure et demie en prime time qui ne sera pas décomptée de son temps de parole car le président n'est pas encore candidat. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont protesté en vain. Le leader présumé des Zouaves Paris, un groupuscule d'ultra-droite, a été interpellé hier. Il est soupçonné d'être impliqué dans les violences lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Éric Zemmour qui est notre invité dans quelques minutes. Le SMIC devrait être revalorisé de 0,9% au moins, sans compter un éventuel coup de pouce du gouvernement. C'est ce que prévoit l'INSEE qui table sur une inflation à 2,7% au début de l'année prochaine. À l'arrivée, le pouvoir d'achat, cela dit, devrait baisser de 0,5% au premier semestre. Veolia et Suez vont bel et bien pouvoir se marier. Bruxelles vient de donner son feu vert à la fusion des deux géants français de l'eau et des déchets. Une opération à 13 milliards d'euros. La compagnie des taxis G7 suspend ses véhicules modèle 3 de Tesla après un accident grave survenu samedi à Paris. Le chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture électrique. Une personne est morte, une vingtaine d'autres ont été blessés. Tesla assure qu'il n'y a pas eu de défaillance technique, mais le conducteur, lui, affirme qu'il ne pouvait pas freiner. Aux États-Unis, Joe Biden sera aujourd'hui dans l'état du Kentucky, ravagé ce week-end par des tornades historiques. Elles ont fait 88 morts au total, dont 74 rien que dans cet état du Midwest. Le président américain a déclaré l'état de catastrophe majeure. Cela permet de débloquer plus d'aide fédérale. Un nouveau coach pour Saint-Étienne, c'est du foot bien sûr. Il s'agit de Pascal Duprat qui succède à Claude Puel. Il va tenter d'assurer le maintien des Verts en Ligue 1. Actuellement, ils sont lanterne rouge. Un miracle qu'il a déjà réalisé en 2016 avec Toulouse. Et puis au Mondial de handball féminin en Espagne, les Bleus affrontent ce soir la Suède pour une place en demi-finale.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Je vous rappelle ce petit déjeuner de campagne qui accueille ce matin Éric Zemmour dans quelques instants, dans moins de 2 minutes. La grande interview avec Alba Ventura et François Langlais. Ensuite, l'œil de Philippe Cavrivière, un petit café Calvi à 8h10 et puis il répondra à vos questions au 3210 à partir de 8h20, 64 900 code matin. Ben voilà, vous l'entendez, il arrive dans ce studio.
RTL présidentielle.
Le petit déjeuner de campagne d'Éric Zemmour.
RTL présidentielle. Le petit déjeuner de campagne.
La grande interview.
Il est 7h35. Bonjour Éric Zemmour. Oui, bienvenue. Oui. Vous êtes notre invité jusqu'à 9h, je le rappelle. Et vous allez tout d'abord participer à cette grande interview qui est celle d'Alba Ventura et de François Langlais qui vous interroge.
Bonjour Éric Zemmour.
Bonjour Alba.
Alors, depuis que vous êtes candidat, vous expliquez que vous n'êtes plus le même. Vous dites que ce que vous avez écrit n'est plus d'actualité, comme si les écrits ne restaient pas. Vous dites même que ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas dit. Bref, vous dites que le Zemmour d'avant n'est pas le Zemmour d'aujourd'hui. Alors, qui avons-nous en face de nous ?
J'ai jamais dit tout ça. Mes écrits restent et je les assume. Ce que je
pas
dis...
Pas toujours.
Toujours. Mes écrits, je les assume toujours. Simplement, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une phrase, deux phrases, qu'on les coupe, qu'on les extrait de son contexte, de l'analyse qui est du livre. Et donc, on ne peut pas discuter. En plus, deuxièmement, quand je dis je ne suis plus le même, c'est pas que je n'assume pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
Donc aujourd'hui, donc, vous êtes un homme politique.
Exactement. Donc aujourd'hui, il y a un projet, il y a un diagnostic, il y a un projet. On va pas... Si vous voulez, vous me prenez des phrases dans mes livres d'il y a 15 ans qui n'ont aucun rapport avec ce que j'explique et que je propose aujourd'hui, c'est hors de propos. C'est tout ce que je dis. Voilà.
Éric Zemmour, vous regrettez votre début de campagne, la brutalité du meeting, le doigt d'honneur? Vous n'avez pas poussé le curseur un peu loin?
Vous savez...
Vous savez ce que dit Laurent Wauquiez, Zemmour ne peut pas gagner car il confond fermeté et brutalité.
Ça m'amuse de la part de Laurent Wauquiez à qui on a reproché la même chose, mais c'est pas grave, je connais la politique. Simplement, je vais vous dire, justement, je ne confonds pas fermeté et brutalité. Mais moi, vous savez, je suis passionné, j'ai la passion de ce que je fais, j'ai la passion de la France, et c'est vrai que j'ai voulu... Et je crois avoir réussi, contrairement à Laurent Wauquiez, entre autres, d'imposer dans la campagne présidentielle le thème de la survie de la France. Ce n'était pas gagné d'avance, car les médias, car la classe politique refusaient de discuter de ce thème-là. Donc il fallait, oui, une certaine brutalité pour imposer ce thème. Que j'ai réussi à imposer, vous me l'accordez, puisque maintenant, tous les candidats, en tout cas à droite, parlent comme moi.
J'ai une question sur votre meeting, puisque le chef présumé du groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves Paris, soupçonné d'être impliqué dans les violences de votre meeting, a été arrêté. Est-ce qu'il faut le dissoudre, ce groupe?
Écoutez, je vous rappelle quand même que les violences dont vous parlez sont epsilonesques, marginales, et qu'elles ont été provoquées par des gens de SOS Racisme qui sont venus pour cela. Je veux dire, je trouve regrettable quand il y a près de 15 000 personnes qui viennent communier dans un même projet politique.
Mais il vous gêne
qu'on
pas
ne
ce
parle,
groupe
attendez, qu'on ne parle que de violences marginales, je le répète.
Mais ça, vous l'avez dit plusieurs fois.
Non, non, mais c'est important parce que moi, ce que j'aimerais, on parle de deux choses. Un, qu'est-ce que faisait ces militants d'SOS Racisme là-dedans? Est-ce que mes militants vont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon?
Les Zouaves, ce sont vos militants?
Non, j'en sais rien, je ne les connais pas ces gens, moi. Je ne les connais pas. Mais il y a des gens, excusez-moi, je ne maîtrise pas tous les gens qui viennent.
Mais ils font du mal à votre campagne.
Mais moi, je ne connais pas ces gens. Vous m'excuserez, ils étaient là, ils n'étaient pas là, j'en sais rien, la justice tranchera. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas des violences qui me sont faites à moi, que de cette personne qui m'a agressé. Personne n'en parle. Tout le monde s'en moque. On voit un candidat à l'élection présidentielle agressé et vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que des gens de SOS Racisme qui font exprès. Donc arrêtez de vous faire le relais complaisant de ces gens de SOS Racisme qui ne font que de la provocation.
Éric Zemmour, question d'actualité sociale. L'actualité sociale, c'est plusieurs syndicats de cheminots qui appellent à la grève ce week-end sur les lignes de train de l'axe sud-est, mais bien au-delà. Il y a d'innombrables régions qui sont concernées. Ils veulent des augmentations de salaire, des embauches. Vous êtes au pouvoir. Vous encadrez le droit de grève à la SNCF justement pour empêcher qu'on perturbe ainsi le départ en vacances des Français?
Non, le droit de grève est un principe constitutionnel. Quand on a essayé de l'encadrer, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, avec une espèce de principe de
service minimum.
Ça n'a pas très bien marché.
Donc il faut s'accoutumer aux grèves sauvages qui perturbent le départ
des
vacances.
La grève, vous n'allez pas... reprocher aux gens de faire grève. Je leur dis, je regrette qu'ils le fassent dans les pires conditions, au moment où les gens veulent partir en vacances. Mais il y a un problème de fond. Excusez-moi, je ne vais pas remettre en question le droit de grève. Ça, non. En revanche, on peut réfléchir à la situation à la SNCF. Et d'ailleurs, des salaires des Français en général. C'est pour ça que moi, j'ai proposé, vous m'avez déjà entendu dire ça, qu'on puisse augmenter le salaire net des salaires les plus bas.
Vous l'avez dit, je voudrais justement vous poser la question spécifiquement sur les salaires dans la fonction publique de ceux qui sont sur le terrain. On voit que l'hôpital a de plus en plus de mal à recruter, 20% des postes ne sont pas pourvus, c'est la même chose dans l'enseignement, au point que le niveau des concours chute, c'est la même chose dans la police. Est-ce que pour avoir des services publics de meilleure qualité, il ne faut pas augmenter de façon substantielle les salaires de ces fonctionnaires-là?
Alors, je pense que c'est un problème global, pas seulement des fonctionnaires. Mais vous avez raison, les fonctionnaires dont vous avez parlé ont des salaires particulièrement bas. Mais je pense que c'est, en France, ça me frappe toujours, le salaire net, je dis bien net, ce qui reste dans la poche des gens, est beaucoup trop faible. Notre problème, mais vous le savez très bien, François Longlet, c'est que le salaire brut est trop élevé. C'est-à-dire que le salaire net est trop bas pour le salarié et le salaire brut est trop haut pour le patron, qu'il soit l'administration, l'État ou le patron privé. Pour un salaire de 2 000 euros, le patron, ça lui coûte 3 500 euros. C'est colossal pour lui et les 2 000 euros, ce n'est pas assez pour le salarié. Donc c'est pour ça que j'ai proposé une baisse de la CSG sur les salaires inférieur à 2000 euros, le salaire médian, qui ferait pour quelqu'un qui a un SMIC une augmentation de 1350 euros à l'année. Ce qui est beaucoup, c'est un 13e mois. Et j'explique même que comment je le finance, puisque je l'ai aussi déjà dit, c'est-à-dire que je considère que notre problème, pourquoi on a ce différentiel énorme qui existe moins, qui n'existait moins avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on est d'accord, et qui n'existe moins dans certains pays. Pourquoi ? Parce que notre système de protection sociale est devenu obèse. Et pourquoi il est devenu obèse, selon moi ? Parce que nous sommes trop ouverts aux 80, que nous gérons mal accessoirement les systèmes de la fraude, etc. Mais surtout parce que nous ouvrons notre système solaire au monde entier. Donc je propose...
C'est aussi parce que c'est un système social qui fonctionne bien, avec des garanties étendues.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison.
Et d'ailleurs, les garanties sont bien meilleures qu'il y a 20 ans.
Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux solutions. Il y a trois solutions. Soit on s'en moque. C'est le problème de la gauche et on continue de financer avec la dette. Soit on dit qu'il faut réduire... la protection sociale de tous les Français. C'était ce qu'avait proposé François Fillon en 2017. Moi, je prends ni l'un ni l'autre. Je dis, je ne diminue pas, je ne touche pas à la protection sociale des Français. En revanche, j'estime que la solidarité nationale doit redevenir nationale. Oui, c'est ce qui existait, attendez, je finis. C'est ce qui existait avant les années 90. La solidarité nationale, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les allocations minimum vieillesse, les allocations logement doivent être limitées aux Français et ne plus être données aux étrangers.
Mais donc vous changez la Constitution ?
Pas du tout.
Non mais vous savez ce que dit c'est indexé sur la Constitution, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ah oui, c'est pas pareil. Préambule de la Constitution du 27 octobre 46. Tout être humain en incapacité de travailler en raison de son âge, de sa condition, de la situation économique a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
D'abord, vous donc savez ça, très vous bien, vous l'avez précisé vous-même, c'est le préambule de la Constitution. Il a été indexé à la Constitution dans ce qu'on appelle, dans ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité. Ce sont les juristes qui ont décidé cela. C'est le Conseil constitutionnel en 1971 qui a décidé cela. Sous le général de Gaulle, ça n'existait pas. Première chose.
Donc vous l'enlevez ?
L'enlève pas. Je dis simplement que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui gouvernera à ma place. Voilà. Donc si le Conseil constitutionnel veut annuler la mesure que je prendrai, d'abord j'ai deux moyens. Un,
mais on
tout mon programme, attendez Alba.
Concrètement, parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire.
Mais laissez-moi parler, je vais vous expliquer. D'abord, sur l'immigration, j'ai tout un plan. Si ça vous intéresse, je vous le donnerai volontiers, d'ailleurs je vais vous le donner. Et je le présenterai par référendum aux Français, dès avant l'été. Et donc, toutes ces mesures sur l'immigration, dont la préférence nationale pour la solidarité nationale, ça sera dans le référendum, ma chère Alba. Et donc, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour juger d'un référendum. Il l'a jugé lui-même en 1962. Et deuxièmement, je ferai une réforme constitutionnelle qui fera que, modifiera l'article 55 de la Constitution et qui fera que la loi postérieure sera supérieure à un traité.
Une question, Éric Zemmour, sur la simplification administrative. Vous voulez créer un haut commissariat à la simplification administrative, c'est-à-dire créer une nouvelle administration pour réformer l'administration. Pardon, mais ça sent un peu son ancien élève de Sciences Po. C'est comme demander un poivreau de lutter contre l'alcoolisme.
C'est drôle parce que j'ai fait la même plaisanterie que vous.
Ah, ben oui.
Donc ça me fait plaisir.
Mais sauf que vous faites la proposition.
Non, je fais la proposition, je vais vous dire. Parce que il fallait marquer le coup pour montrer l'importance que j'accordais à cela.
Mais je me souviens, comme vous, probablement, du Haut Commissariat à la réforme de l'État, avec
son
bureau Louis XV.
Mais oui, mon cher Longlet, je sais.
On en est toujours là, quoi.
Je sais. Après, il faut bien montrer, si vous voulez, dans les structures administratives, une volonté politique. Quand Georges Pompidou invente le ministère de l'Environnement, c'est pour montrer que désormais, il y aura une sensibilité écologique et environnementale. Je reconnais que ça prête à plaisanterie, vous avez raison, je vous dis, j'ai fait la même plaisanterie que vous. Mais c'est un moyen, je crois, intéressant de montrer que désormais, nous essayerons d'élaguer ce magma, ce maquis administratif, normatif, que ça soit social ou environnemental.
Éric Zemmour, dans votre programme, vous souhaitez supprimer les droits de mutation. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Ça représente jusqu'à...
plafonné pour un appartement, enfin pour une,
oui.
un achat de 250 000 euros. Donc ça fait 15 000 euros.
Ça représente jusqu'à 10% du prix d'un logement. 15 000 euros, c'est un super cadeau pour les acheteurs. Bah, mais oui. Alors comment vous compensez pour les collectivités? Parce que la FNAIM a calculé, si on applique cette mesure cette année, c'est près de 2 milliards de pertes pour les départements et pour les communes.
Il y aura, vous savez, quand Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, ensuite il y a eu une rencontre avec les collectivités locales pour compenser. L'État devra compenser. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça.
D'accord.
Mais je pense que c'est intéressant, vous l'avez dit vous-même, pour les jeunes qui veulent accéder à la propriété, pour leur permettre d'accéder à la propriété au vu de l'augmentation phénoménale des prix du
vous
logement depuis 20 ans.
Cette mesure, elle a été mise en œuvre au Royaume-Uni, hein, exactement la même. Et ça a fait monter les prix instantanément, quoi, parce que du coup, ce sont les vendeurs qui ont empoché le bénéfice. En fait, c'est comme mettre du white spirit sur le barbecue.
Bah oui, mais dans ce cas-là, vous enlevez aussi les allocations logement, cher François Langlais. Parce que ça fait augmenter les prix.
Le vrai sujet, mais vous n'en parlez pas, c'est l'augmentation de la construction de logements et la baisse de la fiscalité sur la construction. C'est augmenter l'offre pour faire baisser les prix.
Parce que je ne suis pas sûr qu'il faille construire sans cesse.
On a plutôt diminué dans les années récentes. Alors que le nombre de ménages augmente.
Je pense que nous avons un gros problème, vous savez très bien, d'artificialisation des sols. Nous avons un problème d'urbanisation excessive. Les gens aujourd'hui fuient les grandes villes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la solution miracle. En plus, je considère que l'augmentation de la population, ça vient surtout de l'immigration. Et donc moi, je veux arrêter l'immigration.
La décohabitation, c'est d'autres choses.
Bien sûr, vous avez raison. C'est un autre sujet. Vous avez tout à fait raison.
Et ça, pour le coup,
autre sujet. On n'y peut rien et les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais en revanche, je pense que l'augmentation de la population, c'est d'abord l'immigration. Or, moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro, c'est-à-dire que je veux réduire l'immigration légale. Je dis bien légale parce que je pense que c'est ce qui me différencie de mes concurrents, en particulier de Mme Pécresse. Moi, je veux m'en prendre à l'immigration légale. Arrêter le droit au regroupement familial. Arrêter le droit d'asile, le réduire à quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Je veux réduire aussi drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 275 000 entrées légales, sans compter le droit d'asile.
C'est pas ceux-là qui achètent de logements. Hein,
Je suis désolé, ils pèsent. Oui, mais
en revanche, c'est ceux-là qu'on trouve dans les hôtels et les restaurants, que nous payons, parce qu'ils sont logés, ils touchent surtout des aides sociales.
Et vous savez combien, vous savez, Madame Ventura, combien est le taux d'emploi des étrangers non européens? Il est à 45%. C'est-à-dire que nous avons 55% d'étrangers non européens qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs ou inactifs, qui sont donc aux frais du peuple français. Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux. Je propose aussi, d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, que les gens chômeurs, les étrangers chômeurs, au bout de 6 mois, soient renvoyés chez eux, comme ça se passe aux États-Unis ou en Suisse.
Question à l'international. Tiens, si vous êtes président, quel sera votre premier déplacement? Puisque la tradition, c'est l'Allemagne, hein, vous savez.
C'est l'Allemagne, oui, justement. Je pense que nous poursuivons, et Emmanuel Macron en est le parangon, nous poursuivons depuis longtemps une chimère qui est le couple franco-allemand.
C'est depuis la guerre hein, que...
Non, c'est pas depuis la guerre, François Langlais. Non, excusez-moi, non.
Avec une continuité...
Vous allez me dire le général de Gaulle et Adenauer.
Vous
oubliez.
Je vais vous dire.
Mais je sais bien, mais d'abord, c'est pas depuis la guerre, puisque 58, la guerre, elle s'est arrêtée en 45.
Non, mais c'est que même lui, dont vous revendiquez, il a fait ça.
Il a fait ça, mais vous savez la suite. Si on est à 2 minutes...
Non.
À la suite, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en 1963, après le traité d'amitié franco-allemand signé par le général
traité
de Gaulle et Adenauer, le fameux traité de l'Elysée dont on parle tout le temps, on ne parle jamais de la suite. C'est-à-dire qu'ensuite, le Parlement allemand a voté pour le ratifier ce traité. Non, attendez. Pour ratifier ce traité, parce que c'est très important, Alba Ventura, un préambule disant que l'alliance atlantique était bien plus importante que l'alliance avec la France. Et le général de Gaulle a piqué une colère noire. On le voit dans c'était de Gaulle de perfide. Et ensuite, il a changé sa stratégie.
Donc, je ne sais pas. Vous ne savez pas.
Je peux aller en Russie, je peux aller en Hongrie, je peux aller aux États-Unis, je peux aller en Italie, je peux aller dans beaucoup de pays.
Valérie Pécresse a saisi le CSA pour protester contre l'émission du président de la République sur TF1 et LCI ce soir. Le CSA doit-il décompter le temps de parole du président ?
Ça me paraît assez évident. Si le CSA voulait être objectif, il décompterait les 2 heures de ce soir qui sont des heures de propagande électorale.
Merci Éric Zemmour.
Éric Zemmour, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Dans un instant, vous prendrez votre café Calvi à 8h10 dans une atmosphère différente. Et puis vous discuterez avec les auditeurs d'RTL au 3210 et au 64 900 code matin à partir de 8h20. Ils peuvent d'ores et déjà nous appeler pour nous poser toutes nos questions. A tout de suite.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h53. C'est ça. Philippe Cavrivière, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais Éric Zemmour est resté pour votre chronique.
Ben, je vois,
je crois que c'est la seconde fois que vous vous rencontrez.
Oui, tout à fait. On va faire le petit bilan avant Noël. Élève Zemmour, Éric, le perturbateur de la classe. Oh, ne me faites pas le coup des lunettes pour faire le bon élève, ça ne prend pas avec moi. Alors, sur la moyenne générale des sondages, on est bien, on est autour des 13, 14, 15, c'est bien. En revanche, sur le comportement, je ne suis pas content, Éric. Oh non, je ne suis pas content. Oh, ça a chahuté fort au fond de la classe, à Villepinte. À Marseille, vous avez fait du langage des signes à une dame qui n'était même pas sourde. Non, puis on a des plaintes des professeurs. Hein. Non, vous avez dit des gros mots à M. Boulot, hein, que vous auriez traité de connard dans le couloir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Baudin ? C'est vraiment un connard ? Ah, mais oui, mais ne l'encouragez pas non plus. Alors, puis vous auriez traité aussi d'Anne, monsieur le maire, notre professeur d'économie. Oh, il aura ses 500 dérapages avant ses 500 signatures, celui-ci. En tout cas, on n'est pas là pour faire les zouaves. Hein, vous avez compris le sous-entendu ? On n'est pas là. Alors, Yves, les chaises ne sont pas fixées. Hein. Je vous avais demandé de le faire quand il y a Éric Zemmour, les chaises volent. J'avais demandé de clouer les chaises.
Bon, écoutez, en tout cas, je crois que vous êtes ravis du retour d'Éric Zemmour.
Bah, bien sûr. Hey, c'est notre cadeau de Noël avec 10 jours d'avance. La grande famille de RTL est réunie. Ailleurs, qu'est-ce que vous êtes mal accueilli ? C'est fait entrer l'accusé partout où vous allez. Même Nicolas Sarkozy a pris votre défense. Bon, attention, avoir Sarko comme ami, pas forcément une bonne chose, demandez à Guéant. Ici, on est fiers de vous avoir parce que vous êtes l'ancien de la maison. Et surtout, il y a tellement peu de gens de RTL qui réussissent. C'est vrai. On est de quoi ici d'ailleurs? On est centre, on est droit, on est gauche, on est gauche, mais on est de gauche Sardou. Voilà, on est une gauche un peu, voilà.
La gauche Sardou.
Ouais, c'est un journaliste d'RTL dont je dévoilerai pas le nom, sinon il aura des emmerdes qui m'a dit ça. Mais oui, c'est très drôle. En tout cas, ceux qui ne vous aiment pas, il y en a 2-3. Salut, votre courage, Éric. Vous n'avez pas le courage de votre physique. Votre courage vous voit plus musclé que la réalité. Si vous me permettez une métaphore canine entre collègues, vous avez le courage du Jack Russell qu'on a tous vu emmerder Dorothée Weller dans la rue. On se dit, hop, 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 dans quoi il s'embarque, lui.
Bon, écoutez, en revanche, vous avez été très déçu par une décision.
Très déçu, Eric. Très déçu, Eric. Alors, il y a des choses où je ne vous suis pas. Pardon. Hein. Par exemple, quand vous partez 3 jours en Arménie avec De Villiers, je dis tout faux sur la destination, sur la personne. Moi, je serais parti 3 jours avec Sophie Marceau à Marrakech. Oui. Voilà, mais pardon, mais Erevan avec De Villiers. Je préfère Sophie Marceau à Marrakech. Bon, je suis le seul ?
J'entends bien.
Prends les faux culs.
Vous l'avez compris, on est
dégonflé,
d'accord avec vous.
Mais dégonflé.
Bien, on va rester dans le voyage, puisqu'on va parler de la SNCF, qui a prévu de faire grève à partir du 16, ce qui pourrait impacter les départs en vacances de nombreux Français.
Oh, des trains annulés pour les vacances. Je trouve que ça boucle bien l'année. Car la grève à la SNCF est une tradition française, monsieur. Vous qui aimez les traditions. Alors, il y a déjà eu une grève le 17 novembre, parce que souvent on se ramollit entre les grèves estivales et les grève de Noël. Et c'est important de faire une petite grève en novembre, hein, ce qu'on appelle la grève de rappel, hein, comme le vaccin. Hein, il y en a beaucoup, des rappels. Alors, un bon gréviste, vous savez, c'est comme un grand concertiste ou un grand pianiste. Il faut faire grève un peu tous les jours. Messieurs, c'est Christian RTT, votre chef de bord. Le TGV numéro 6424 à destination de vos vacances de Noël est supprimé tant que nos personnels SNCF n'auront pas la prime Covid. La prime grippe, la prime pharyngite, la prime verrue plantaire, la prime port de casquette à la con. En wagon bar, vous trouverez du saucisson sec et des M&M, ce sera votre seul repas de Noël. La SNCF et tout son personnel de bord d'elle vous souhaitent un agréable réveillon sur place. SNCF, à nous de vous faire préférer l'avion.
Bon, écoutez, revenons à...
on voilà. y était.
Jingle SNCF. Revenons à la politique. Éric Zemmour peut-il gagner l'élection présidentielle en 2022? C'est ça la question.
Bien sûr. Pourquoi? Parce que jurisprudence Hollande. Si Hollande l'a fait, tout le monde peut le faire. Même Philippe Juvin peut revenir dans la course. François Hollande a été très bon en meeting et en débat. Mm-hmm. Bon, c'est juste après, une fois qu'il a foutu les clés dans le contact et qu'il a démarré. Voilà, bon, on s'est tous aperçus de la supercherie. Ça a duré 5 ans le trajet.
Mais les voitures viennent caler là.
Voilà, alors, oui, bah oui, c'est ça. C'est la métaphore.
Un mot de l'arrestation du chef des Zouaves, ce groupuscule proche de l'extrême droite, présent au meeting d'Éric Zemmour. Vous avez revu les images de la bagarre?
J'ai revu un banquet d'Astérix à la fin là. Alors, on a coutume de dire que la violence ne résout rien. C'est faux. Dans 50% des cas, c'est une excellente solution, la violence. Ben quand on gagne, déjà, parce qu'on est content. Moi, je suis sûr qu'Éric, dans le fond, quand vous avez vu ce militant taper sur une jeune fille, même si elle l'a agressé avec un t-shirt, on ne parle pas assez sur cette antenne des agressions aux t-shirts des jeunes filles, vous avez dû vous dire la phrase de Charlie, c'est quand même dur d'être aimé par des cons, parfois. Car un homme qui tape une jeune fille n'est pas quelqu'un de violent, c'est juste un énorme salaud pour moi. Sinon, ici, les chaises n'ont pas volé. Personne ne s'est fait traiter de connard. Je crois qu'Éric a adoré ma chronique. Vous m'avez trouvé comment?
On a l'impression d'un type qui n'est pas fini.
Bah, dis donc, entre collègues, hein, c'est pas la peine de m'appeler pour la culture au mois d'avril. Hein.
L'œil de Philippe Cabrivière, chaque matin à 7h55, en direct, et comme vous le voulez, en replay. Vous restez avec nous, Éric Zemmour. Je rappelle notre Café Calvi à 8h10, et ensuite, vous dialoguerez avec les auditeurs d'RTL qui vous appelleront au 3210 et au 64 900, code matin. Notre météo, tout de suite avec vous, Louis Bonnat.
Oui, avec encore ce matin beaucoup de grisailles, beaucoup de brouillard dans le nord-est, il y en a également en Bretagne, il y en a parfois dans le sud-ouest, beaucoup de nuages bas également, sauf en montagne et près de la Méditerranée où c'est déjà dégagé. Et puis cet après-midi, bah encore une fois, on trace un trait entre Noirmoutier, Lyon et Besançon. Au nord, ça restera gris, hein, toujours pas de soleil aujourd'hui, sauf peut-être très localement en Bretagne. Et puis dans le sud de cette limite, bah là c'est l'inverse, il y aura beaucoup de soleil, quelques nuages quand même autour de la vallée de la Garonne, hein, quelques brouillards persistants. Et puis les températures dégelées dans le sud en ce moment. Moins 3 degrés à Avignon, moins 2 au Puy par exemple. Et cet après-midi, 5 à 8 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est. 8 à 11 degrés dans les autres régions. Oui, ça ressemble à hier. 14 à 17 degrés près de la Méditerranée.
Nous sommes parfaitement à l'heure. Merci beaucoup Louis Bonnat, RTL. Il est très exactement 8 heures.
RTL présidentielle, le petit déjeuner de campagne.
Bonne journée à tous, à 8h, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et à la une, l'ouverture ce matin de la vaccination aux plus jeunes.
Les 5-11 ans dont l'état de santé est considéré comme fragile vont en effet dès aujourd'hui pouvoir bénéficier d'une dose de Pfizer et ce sera le cas pour tous les enfants sur la base du volontariat dans les jours ou les semaines qui viennent. Une nouvelle étape franchie donc dans cette lutte anti-Covid, mais loin de faire l'unanimité. À l'approche des fêtes et des retrouvailles en famille, voilà de quoi animer les discussions à table, à moins que la vaccination ne rejoigne la pile des sujets tabous. C'est ce que vous avez constaté à Bordeaux, Philippe de Maria.
Oui, sentiment dominant chez les Bordelais croisés dans la rue, éviter à tout prix le sujet vaccin.
Avant, c'était les sujets politiques, maintenant ça va être le vaccin, mais bien sûr.
Adrien n'est pas vacciné. Le soir du 24, il n'exclut pas des débats vifs.
C'est l'effet Internet, ça. On est bloqué dans nos positions comme des chiens qui se regardent à travers une grille et qui aboient, alors qu'en réalité, dès qu'on retire la grille, les chiens jouent ensemble, et ben on est un peu pareil.
Isabelle, elle est vaccinée. Si le sujet Covid s'invite à table, elle n'évitera pas le débat.
J'aime défendre mes idées et si on en parle, je risque de m'énerver un peu.
Alors on peut aussi espérer une certaine tolérance la veille de Noël, comme entre Marine et sa maman Sylvia.
Moi je suis vaccinée, maman l'est pas, voilà, on se respecte en fait, on respecte nos choix, mais tout le monde n'est pas pareil.
Mais le grand-père manquera à l'appel.
Moi mon père il veut pas me voir, c'est la première fois, parce qu'il fait pas non à laver sa fille à cause du vaccin. Oui mais on n'en fera pas une discussion.
Et la majorité des Bordelais interrogés s'accordaient sur le respect d'une jauge raisonnable le soir du réveillon.
Un reportage signé Philippe Demaria. Preuve supplémentaire ce matin, s'il en fallait une, de l'efficacité du vaccin. Ce foyer d'infection dans un petit village du Jura, à Chissé-sur-Loup, sur 329 habitants, un tiers ont contracté le Covid, essentiellement des personnes âgées. Le virus s'est propagé à la suite de plusieurs fêtes organisées, soirée Beaujolais, soirée Cancoyotte, repas de chasseurs. Denise, 84 ans, n'a aucun regret.
C'est là que ça a brassé, les gens ont brassé, et puis le virus, il est venu de là. Hein, parce que vous savez, c'est toujours les mêmes dans les petits pays quand on organise quelque chose. Tout le monde était content, les gens étaient heureux, ils chantaient, ils ont dansé. Oh, mais on a vu que vraiment les gens se sont défoulés. Hein.
Il y avait besoin, mais il y a eu le virus.
Ben, il y a, oui, ben, ma foi, voilà. J'ai dit, moi, je ne regrette pas mes repas, même à mon docteur. Ben, il m'a dit, vous voyez vos repas, vos machins. Ben, je lui ai dit, je ne regrette rien, docteur. Je lui ai dit, si je suis malade, ben, je saurai ce que c'est.
Voilà. Malade, malade, mais en bonne santé, Denise, ah, oui. Comme tous les participants aujourd'hui. Témoignage recueilli par Frédéric Perruche. Et puis Sanofi annonce ce matin un nouveau retard sur son vaccin à protéines recombinantes prévu initialement en début d'année prochaine. Les premiers résultats sont prometteurs, mais le laboratoire peine à recruter des candidats non infectés en cette période de reprise de l'épidémie, indispensable pour terminer les essais de phase 3, la dernière avant autorisation.
8h03, si l'on en croit les prévisions de l'INSEE, le pouvoir d'achat pourrait baisser dès le mois prochain de 0,5%.
Ce qui tombe plutôt mal en pleine campagne présidentielle quand on sait que l'emploi et le pouvoir d'achat sont les principaux sujets de préoccupation des Français. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Heureusement pour les 2 millions de salariés rémunérés au SMIC, le salaire minimum devrait augmenter dès le mois prochain. Concrètement, ce sera combien ?
L'INSEE prévoit 0,9% d'augmentation du SMIC. Concrètement, on a fait les calculs, ça veut dire 38 euros net de plus par mois par rapport à il y a un an. D'ici janvier prochain, le salaire minimum en France sera donc désormais à 1269 euros par mois, précisément un salaire net pour un travail à temps complet. Écoutez la réaction de Grégory, payé au SMIC dans un supermarché.
J'ai 3 enfants, donc moi je fais à peu près 400 euros de courses. Ça représente 10% de mes courses pour nourrir la famille. Quoi. C'est toujours 40 euros d'augmentation. Quoi. C'est pas négligeable en soi. Malheureusement, c'est vrai qu'on va pas forcément le voir dans le budget avec tout ce qui augmente par rapport à la vie. Les coûts de la vie, c'est peu. Quoi.
Et le problème, ouais. C'est exactement ça. C'est l'une des plus fortes augmentations du SMIC depuis 10 ans. Mais en parallèle, c'est l'INSEE qui le dit, la note de gaz, d'électricité, de carburant a déjà augmenté de 30 euros par mois en moyenne par rapport à 2019. Le gaz a flambé aussi. Résultat, l'inflation grignote, engloutit les perspectives d'augmentation du pouvoir d'achat.
Merci Anaïs Bouissou. Dans l'actualité également, la fermeture pour 6 mois de la mosquée de Beauvais dans l'Oise. L'imam de ce lieu de culte arrivé il y a quelques mois aurait tenu des propos incitant à la haine contre les chrétiens, les juifs et les homosexuels. Il y a 3 semaines, il réclamait dans une tribune des moyens dignes pour la justice. Les magistrats se mobilisent aujourd'hui, les avocats, les greffiers également. Ils vont se rassembler devant les cours d'appel partout en France.
À l'étranger, le lancement des travaux aujourd'hui pour la construction d'un mur géant aux portes de l'Europe.
Oui, en Pologne, 180 km sur toute sa frontière avec la Biélorussie afin d'empêcher les migrants clandestins d'entrer. Et on en parle ce matin avec la brigade RTL. Et avec vous, Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Bonjour Bénédicte.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est donc un vrai mur qu'a décidé d'ériger la Pologne.
Oui, après ces dizaines de milliers de migrants poussés par le dictateur Loukachenko dans les forêts polonaises, la Pologne remplace les barbelés par une structure métallique de plus de 5 mètres de haut avec des capteurs de mouvement, des caméras sur la moitié de sa frontière avec la Biélorussie.
Ce n'est pas le premier mur du genre en Europe.
Non, vous avez les plus anciens autour des enclaves espagnoles au Maroc, à Ceuta, Melilla. Vous avez celui qu'on connaît bien ici en France, au port de Calais, ce mur anti-intrusion d'un kilomètre. La Hongrie, lors de la grande crise migratoire de 2015, a construit des murs entre elle et la Serbie, la Croatie. 2020, encore un entre la Grèce et la Turquie, et puis plus récemment la Lituanie et la Lettonie.
Cette stratégie, est-ce qu'elle est approuvée par les 27 ?
Pas par tous, c'est vrai qu'aujourd'hui 14 pays sont pour le financement de ces murs par les 27, mais la Commission européenne ne veut pas distribuer d'argent pour cette solution, préférant proposer des mesures de solidarité entre pays. Et puis attention à la Convention de Genève, un mur ne permet pas à des demandeurs d'asile en danger d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Un mur incite aussi les passeurs à se déplacer ailleurs. C'est là aussi contraire au principe de solidarité.
La brigade RTL ce matin avec Bénédicte Tassard.
Il est 8h06, c'est le défi RTL de la semaine, traverser la France, une partie en tout cas du pays et uniquement grâce au covoiturage.
Défi brillamment relevé depuis lundi par notre reporter Valentin Boisset qui nous permet chaque jour, au rythme de ses trajets, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, autant d'histoires et de profils différents. Valentin a démarré la semaine à Rethel dans les Ardennes, il est arrivé hier à Troyes et se dirige vers Libourne, trois villes, trois lettres, RTL, rien n'est laissé au hasard. Nouvelle étape ce matin, départ de 3 directions, Mâcon, avec une voiture bien chargée, Valentin.
Oui, en arrivant à la gare de Troyes, quelques difficultés pour faire rentrer mon sac à dos dans le coffre.
Donc là, on a des skis dans la voiture. C'est rare en covoiturage.
Jérémy s'arrête à lui après Mâcon. Il utilise le covoiturage pour ses vacances.
De chez moi, je pousse jusqu'à la plage pour aller au ski. Très peu de moyens et du coup, c'était vraiment pour financer mes trajets. Le covoit, je pense que ça va me payer au moins 100 euros. Donc ça va me payer au moins toute l'autoroute.
Son matériel de ski est de seconde main. Sa réservation faite depuis des mois pour payer moins cher.
On peut dénicher des petits bons plans. On est un peu tous pareils là-dessus. J'avais chaud si j'avais froid. Peut-être comme chez vous.
Peu après le péage, Jérémy nous parle de son métier.
Je suis responsable dans un abattoir de volailles.
À l'arrière, Aileen, une étudiante, écarquille les yeux.
Ça surprend les gens parce qu'ils ont une image très négative des abattoirs.
Son abattoir emploie 450 personnes, près de 3. Alors les dérives de certains dans ce milieu l'attristent car elles ternissent la réputation de son métier.
Tu te dissocies quand même un petit peu de la chose, sinon tu pourrais pas y arriver.
T'aimerais que la vision soit moins stéréotypée?
Totalement. Franchement, tout est contrôlé. Faut pas se dire parce qu'on a vu un porc qui est maltraité que c'est partout comme ça en fait. C'est bien loin de ça.
Jérémy formule ensuite un souhait, celui d'un débat plus apaisé sur cette question alors que l'élection présidentielle approche. Puis yes, il me dépose.
Salut.
Me voilà donc à l'aire de covoiturage de Mâcon. Une heure de marche jusqu'au centre-ville. Prochaine étape, Clermont-Ferrand.
À demain Valentin pour un nouveau trajet. La France du covoiturage, série à retrouver sur notre application RTL et sur notre site RTL.fr. Le football et l'arrivée à Saint-Etienne d'un nouvel entraîneur, Pascal Duprat, attendu quasiment comme le Messi, qui aura pour mission délicate de sauver les Verts, de les maintenir dans l'élite alors que le club est pour l'instant lanterne rouge du classement. Le handball féminin, quart de finale du mondial ce soir pour les Françaises face à la Suède, les filles qui pour l'instant font un parcours sans faute. Et puis le basketteur américain Stephen Curry est entré cette nuit dans l'histoire en devenant le meilleur tireur à 3 points de tous les temps en NBA. Le joueur des Golden State Warriors a marqué son 2973e panier longue distance. Pour les non-initiés, sachez que c'est un exploit.
Ah bah non, oui, c'est un exploit. Bientôt 3000, donc on a bien compris. Voilà, c'était le journal de Dominique Tenza. Alors, on se retrouve à quelle heure, nous, aujourd'hui?
Alors, 8h30, 9h, c'est comme vous voulez. Quand vous m'appelez, j'arrive.
Non, 9h. 8h30, ce sont les auditeurs d'RTL qui dialogueront avec Éric Zemmour, qui est aujourd'hui l'invité de nos petits déjeuners de campagne. Il va prendre d'ailleurs un petit café Calvi dans pas très longtemps. Et ensuite, donc, je vous incite vraiment à nous appeler au 3210 pour dialoguer directement avec le candidat à l'élection présidentielle. Vous pouvez aussi poser vos questions au 64 900 code matin. A tout de suite.
RTL présidentielle.
Petit déjeuner de campagne, le Café Calvi.
Il est 8h11, Éric Zemmour, c'est l'heure du Café Calvi. Par définition, un moment, on va dire, plus détendu, hein, nos petits déjeuners de campagne, pour mieux vous connaître. Depuis que vous êtes candidat et que votre campagne a vraiment commencé, avez-vous parfois regretté de vous être lancé?
Non. J'ai beaucoup hésité. Quand j'étais venu il y a 3 mois, j'avais répondu à Alba, j'hésite encore, c'était pas une formule, c'était pas une cachotterie, c'était normal que j'hésite. C'était pas mon métier, j'avais pas programmé cela. J'ai sillonné la France pendant 3 mois j'ai vu beaucoup français. Vous avez vu, mes salles étaient vraiment pleines. Les gens venaient me parler et j'en ai tiré 2 leçons. Les gens sont hantés, je dis bien Yves Calvi, hantés par le grand remplacement avec l'islamisation de la France et le grand déclassement avec l'appauvrissement des Français et l'effondrement de l'école.
Je ne reviens pas sur les polémiques, on va dire, quasi permanentes que vous avez lancées, que vous revendiquez d'ailleurs.
Ça dépend sur le fond, oui, bien sûr.
Non, mais bien sûr, mais des amis, des proches, vous ont-ils tourné le dos parce qu'ils étaient choqués ou en désaccord avec vous?
Ah, vous savez, cher Yves, ça fait 20 ans que des proches, ou soi-disant proches, me tournent le dos parce qu'ils sont en désaccord avec moi. Donc ce n'est rien de nouveau. C'est ma vie. En même temps, ça sélectionne la qualité des gens.
Ça ne vous interroge pas de temps à autre quand même?
Ah oui, ça m'interroge, mais...
Parce qu'il y a forcément des personnes avec qui vous avez eu des liens d'amitié forts, puissants, qui vous ont tourné le dos, et j'imagine que ça doit quand même vous poser un certain nombre de questions.
Bien sûr.
Pas uniquement sur eux, mais aussi sur vous.
Bien sûr, Yves, bien sûr. Je vais vous répondre. Moi, je ne tourne jamais le dos à quelqu'un que j'aime parce que je suis en désaccord avec lui. J'ai des désaccords profonds avec beaucoup de gens, des amis à moi, avec qui je discute pendant des heures et avec qui j'ai des controverses effrénés et passionnés, mais je les aime. Vous savez, il y a une très belle formule de Proust que j'aime beaucoup, qui dit « L'amitié, ce n'est pas la convergence des opinions, mais c'est la contiguïté des esprits. » Quand ces gens me quittent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, je me dis que je me suis trompé et que nous n'avions pas des esprits contigus.
Question plus intime, je rentre dans le cercle familial. Vos trois enfants partagent-ils vos idées et vos engagements ?
Oui.
Pourquoi ? Je m'excuse, vous avez mis ça.
Vous allez comprendre pourquoi. Allez, j'ai deux garçons et une fille.
Oui.
Je peux dire que mes deux garçons sont plus grands. Ma fille est plus jeune, elle a 17 ans. Et je peux dire que mes deux garçons partagent tout à fait mes opinions.
Vous êtes en train de me dire, les deux garçons, oui, ma fille nettement moins.
C'est pas nettement moins.
Mais si c'est le cas, c'est intéressant.
Elle est moins engagée politiquement. C'est pour ça que comme elle est plus jeune, elle est moins engagée politiquement. C'est pour ça que je me permettais cette précaution oratoire.
Je reste dans le domaine familial. Votre vie privée a été très largement exposée au cœur de cette campagne. Votre compagne, Madame Knafo, va-t-elle vivre avec vous à l'Élysée si vous êtes élu ?
Alors ça, je ne réponds pas à tes questions personnelles. Ma vie privée ne regarde que moi je trouve vraiment...
Les Français n'ont pas à en être informés.
Attendez, les Français sauront le jour venu. C'est pas, vous savez, je déteste cette américanisation de la vie politique. Je l'ai condamnée souvent pour les prédécesseurs. Oui. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne choisissons pas un couple, nous choisissons un homme. Donc le président, le candidat, c'est moi. Tout le reste, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma vie privée qui ne regarde que moi et les Français s'en moquent. Donc je refuse de répondre à ces questions.
Vous savez très... Alors vous pouvez tout à fait refuser de répondre à une question, mais vous imaginez bien que les Français ne s'en moquent pas.
Les Français s'en moquent. Contrairement à ce que vous dites, les Français s'en moquent. Les Français se moquent de ma vie privée. Les Français s'intéressent à ce que je dis pour la France, à ce que je dis pour la survie de la France. Bon, ma vie privée, franchement, ils s'en moquent et ils ont bien raison.
Si vous perdez, vous redevenez journaliste ou vous menez une carrière politique définitivement, Éric Zemmour ?
Non, je mènerai ce que vous appelez une carrière politique, c'est-à-dire que je m'engagerai, j'ai un parti politique, il aura des candidats aux élections législatives, donc on peut appeler ça une carrière politique.
Donc vous allez vous présenter aux élections législatives si vous n'êtes pas élu président de la République ?
Mais je serai élu président de la République.
Il y aura des candidats Zemmour
à
l'élection législative dont vous pourriez faire partie.
Il y aura des candidats, si c'est pas des candidats Zemmour d'ailleurs, c'est des candidats Reconquête. Puisque le parti s'appelle Reconquête. Et donc, vous savez, je tiens à le dire quand même, parce que c'est important, il a été créé donc officiellement, enfin il a été rendu public il y a 10 jours, nous sommes déjà à 60 000 adhérents, Yves Calvi. Demandez aux autres partis où ils en sont.
Non, mais là je suis en train de vous interroger parce que c'est important. Il y aura massivement des candidats zémouristes aux législatives, on s'est bien compris.
Oui, Yves Calvi,
vous savez dans quelle proportion ? Vous espérez dans quelle proportion ?
Il y en aura partout.
Il y en aura
partout. Aux législatives et on aura des accords. Vous savez, il y a des partis.
Donc vous souhaitez être présent dans toutes les circonscriptions.
Bien sûr, mais ou alors on aura des accords avec des partis amis, le parti de Monsieur Poisson, Via, ou les gens du Parti conservateur, de Madame Trochu. Vous voyez, ces gens-là auront aussi des candidats. Ils seront avec nous et on s'arrangera après. Mais c'est accord de parti. On en est loin encore.
Merci Éric Zemmour. Restez avec nous pour le surf de l'info de Cyprien Signy. Puis j'invite nos auditeurs une fois de plus à continuer de nous appeler au 3210 pour vous poser toutes leurs questions dans quelques instants, ils dialogueront avec vous.
RTL Matin,
le surf de l'info,
Cyprien Signy.
Et c'est donc à 8h17, le surf de l'info de Cyprien Signy.
Ah, Éric Zemmour, ça y est, vous êtes désormais entré dans la grande famille des politiques.
Bienvenue dans la famille.
Et alors, on sent que vos nouveaux collègues sont ravis de vous accueillir. Vous faites l'unanimité. Alors, Dan Hidalgo.
Moi, je débat pas avec un négationniste. Je ne débat pas avec un raciste. Cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol.
Ah, il vous aime beaucoup. Ah, Yannick Jadot.
Zemmour, le petit collabo de salon qui se prend pour un grand résistant, même pas en rêve.
Ah, on sent qu'ils sont contents de vous voir. Hein. En passant par Valérie Pécresse, quelque peu désabusée.
Enfin, c'est pas à la hauteur du débat. Enfin, franchement.
Ou Jean-Luc Mélenchon.
Qui en rajoute, qui parvient petit à petit à construire une force d'extrême droite, de masse et violente.
Jusqu'au communiste Fabien Roussel.
Beaucoup de violence, ça m'a rappelé la France des années 30 qui prépare la collaboration, quoi.
Bingo, carton plein, Éric Zemmour, le chouchou de la promo 2022. Surtout qu'en plus, franchement, vous n'aurez rien fait à vos nouveaux camarades. Bon, peut-être que ça...
Le théorème d'Hidalgo. Toute politique conduite par le maire de Paris donne des résultats exactement inverses à l'objectif proclamé. À ce niveau-là, c'est un art.
Oh, où ça alors ?
Valérie Pécresse, croyons-la sur parole. Elle promettra tout et ne tiendra rien.
Ou alors tout simplement Vichy, Pétain, les prénoms, les femmes, les piques, les polémiques et...
Emmanuel Macron, il est le grand vide. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout.
Bon, alors heureusement que le président n'a pas voulu s'en mêler. Hein. Un peu de hauteur.
Il n'appartient pas au président de la République de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir.
Mais quand même un peu...
Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme.
Oui, je crois que là, il voulait parler de vous. Enfin, alors, on a quand même trouvé un copain à vous, hein, Robert Ménard.
J'ai de l'amitié pour Éric Zemmour. Éric, c'est mon ami.
Ah ben voilà. Ah, il a pas fini.
Mais Éric, il faut arrêter de dire des bêtises comme ça, honnêtement. Je n'ai pas
l'ami comme toi. Eh oui, Éric Zemmour, vous avez voulu aller en politique. Et ben maintenant, vous y êtes jusqu'au cou. Je n'ai pas
l'ami comme toi. Merci Cyprien, ce soir 18h40 avec votre équipe.
On absolument, on défait le monde, l'info autrement.
Rendez-vous est pris. Dans quelques instants, c'est vous, chers auditeurs et lecteurs, qui allez pouvoir interroger Éric Zemmour. Appelez-nous au 3210 dès maintenant. Envoyez votre question en démarrant votre message par les lettres RTL. Le tout en 64-900. Et je peux vous dire, Éric Zemmour, qu'on a déjà de nombreuses questions et parfois fort intéressantes. Vous discutez avec nos auditeurs dans un instant.
RTL présidentielle.
Le petit déjeuner de campagne d'Éric Zemmour. Le petit déjeuner de campagne
avec les auditeurs électeurs.
Il est 8h22. Les auditeurs électeurs, c'est un des moments de vérité de ces petits déjeuners de campagne. Alba Ventura nous a rejoint, Éric Zemmour, et on va tout de suite donner la parole à ceux qui veulent vous interroger ce matin. Éric Zemmour, on commence avec François qui vit, lui, à Verdun dans la Meuse. Bonjour François, merci beaucoup d'écouter RTL. Éric Zemmour vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi, bonjour Alba Ventura, bonjour Éric Zemmour.
Bonjour monsieur.
Voilà, j'avais une double question à poser, qui s'enchaîne d'ailleurs l'une à l'autre. La première question, c'est sur le plan économique. Que comptez-vous faire pour redynamiser, revitaliser les départements ruraux, donc la ruralité, comme la Meuse où j'habite, où je suis né, un petit département de 190 000 habitants, mais comme d'autres départements, la Haute-Marne, les Ardennes, la Corrèze, la Haute-Loire, la Creuse. Donc c'est important pour nous qui vivons dans des départements plus ou moins sinistrés.
On va laisser, si vous le voulez bien, Éric Zemmour répondre à cette première partie de question et puis on écoutera la seconde ensuite.
Oui, d'accord. C'est une question fondamentale, cher monsieur, que vous posez. Et c'est un peu la question que posaient déjà les Gilets jaunes il y a quelques années, c'est-à-dire la fameuse France périphérique dont parle Christophe Guillouis depuis une dizaine d'années dans ses livres. Je pense que la France périphérique a payé deux phénomènes majeurs qui sont la désindustrialisation, puisque beaucoup d'industries étaient justement dans des petites villes moyennes, etc. Et l'immigration de masse qui a fait que les gens qui auraient dû vivre autour des métropoles, dans les banlieues, ont été chassés par une immigration islamique qui imposait son mode de vie. Ces deux phénomènes se sont conjugués et si vous voulez, on a d'une part des gens qui vivent à 100 km de leur lieu de travail et d'autre part des pays qui sont désertés, où il y a des déserts médicaux, où les services publics ne sont plus là, etc. Donc je pense qu'il faut résoudre ces deux problèmes. J'ai parlé tout à l'heure de l'immigration. Il faut réindustrialiser dans ces zones. Oui, c'est-à-dire...
Je ne vois pas comment l'immigration est arrivée dans cette question.
C'est très simple.
Faites le lien.
Le lien, c'est très simple. C'est que beaucoup de gens qui vivent à 100 km des métropoles et qui vont y travailler auraient dû vivre beaucoup plus proche des métropoles. Vous voyez, dans les banlieues. Et ce qu'ils vivaient dans les banlieues. Moi, quand j'étais enfant, on vivait dans les banlieues. Et donc, ces gens-là ont été chassés des banlieues, ont été envoyés à des distances importantes de leur lieu de travail. C'est tout.
Quel est le lien avec l'immigration?
L'immigration, c'est parce que c'est l'immigration qui a chassé les gens des banlieues. Et c'est assez simple à comprendre.
Alors, la question était comment on revitalise, merci.
Justement. Et donc, pour revitaliser les zones rurales, il faut d'abord, je pense, réindustrialiser. Et pour cela, je propose un ensemble de choses, dont des zones industrielles franches. C'est-à-dire des zones comme vous voyez comme on a connu les zones franches en banlieue justement. Là, moi je veux les mettre dans la France rurale pour qu'il y ait de nouveau des installations d'usines. Deuxièmement, je demande effectivement la réinstallation de services publics dans ces zones. Troisièmement, le problème important c'est les déserts médicaux. Et donc j'ai proposé de faire sur le modèle de la Saône-et-Loire, qui a embauché des médecins par le conseil départemental, que l'État fasse la même chose, embauche en urgence 1000 médecins pour les mettre dans les zones où il y a des déserts médicaux importants, comme dans les régions dont ce monsieur a parlé.
Il faut revenir sur la liberté d'installation de nos médecins.
Je pense que pour l'instant, il faut en urgence, salarier ces 1000 médecins dont j'ai parlé, deux, remettre en cause définitivement le numerus clausus, trois, remettre les règles de la garde médicale. Les gardes médicales de nuit qui ont été supprimées en 2003. Et si ça ne suffit pas, on verra ensuite.
Merci beaucoup François de nous avoir appelé depuis le département de la Meuse. Maintenant c'est Fabrice qui est policier en Savoie qui vous interroge, Éric Zemmour. Bonjour Fabrice.
Bonjour monsieur Yves Calvi.
On vous écoute.
Alors bonjour monsieur Éric Zemmour.
Bonjour monsieur.
À votre personne et à votre candidature de reconquête. Ma question sera basée sur les condamnations pénales des délinquants récidivistes, voire multirécidivistes. Seriez-vous favorable de rétablir les peines planchers ainsi que sur un retour éventuel des centres fermés?
Alors, cher monsieur, je vais même au-delà. Je suis évidemment pour le rétablissement des peines planchers. Je suis pour l'expulsion de tous les délinquants étrangers. Je suis pour la déchéance de nationalité des binationaux multirécidivistes. Je suis également... si vous voulez, pour des mesures très fermes, pour un grand plan pour la justice et pour la police, car on a vu, il y a en ce moment, des grèves de magistrats, et Dieu sait...
Mais il parle des délinquants français, hein, oui. Notre auditeur.
Moi, je parle des délinquants... On parle des Français, on ne va pas les expulser.
Voilà. Donc, les centres fermés.
Les centres fermés pour les mineurs, il parle, je pense. Parce que les centres fermés, ça s'appelle des prisons pour des majeurs. Pour les mineurs, alors là, il y a aussi les mineurs isolés. Je pense qu'il faut les rendre à leurs parents. Et il faut abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. Je pense, et il faut en plus supprimer, alors là pour les mineurs, les allocations sociales aux parents des mineurs. Et il faut supprimer évidemment également les allocations aux délinquants. Ensuite, une dernière chose pour monsieur qui est policier, je compte proposer également une modification de la loi sur la légitime défense, une mesure inspirée du droit suisse qui serait la défense excusée. C'est-à-dire qu'il protégerait davantage les policiers qui auraient ainsi le droit de se défendre quand ils sont attaqués et agressés par des voyous, comme cela se passe tous les jours.
Alors, on va écouter maintenant Gérard qui nous appelle du département de la Drôme. Merci Fabrice de nous avoir appelé. Gérard, bonjour. Éric Zemmour vous écoute.
Bonjour Monsieur Calvi. Et je vous remercie de vous en sélectionner tout d'abord. Je salue Monsieur Éric Zemmour, que j'ai beaucoup d'admiration.
Bonjour monsieur.
Voilà. Donc, ma question est toute simple. Quelle est votre position concernant les droits de succession?
Alors, je considère que nous pêchons dans notre système économique par des entreprises et des petites entreprises qui ne peuvent pas se transmettre à leurs enfants. Nous avons des droits de succession trop élevés par rapport aux autres pays, en particulier l'Italie et d'autres. Et même s'il y a le système qu'on appelle le système Dutreil, vous savez, qui est un système un peu très complexe, mais qui permet d'alléger les droits de transmission pour les entreprises, je pense que c'est beaucoup trop tout ça est beaucoup trop compliqué. Donc j'ai proposé, je propose, la suppression des droits de transmission pour les entreprises familiales.
Pourquoi seulement les entreprises ?
Les entreprises familiales.
Ah, très bien, pardonnez-moi, j'avais pas compris.
Mais c'est important parce que, oui. Si vous voulez, je veux privilégier les PME et leur permettre de devenir plus grandes, de devenir des ETI. Et donc, j'ai tout un plan pour les PME, et en particulier cette mesure qui est la suppression des droits de mutation et de transmission. Parce que, si vous voulez, on a un gros problème, c'est que contrairement à l'Italie, par exemple, on n'arrive pas à faire que nos entreprises se transmettent de génération en génération. Les gens, pour payer les droits de mutation, sont obligés de vendre à des industriels chinois ou à des groupes financiers américains au lieu de transmettre à leurs enfants. Il faut arrêter cela et il faut permettre à nos PME de croître et prospérer.
Donc, lorsque vous voulez supprimer les droits de succession, ça se limite, nous sommes bien d'accord avec Zemmour, aux entreprises familiales afin qu'elles puissent continuer à perdurer et à rester dans les mêmes familles. Je vous ai bien compris.
Vous m'avez bien
compris. Ça ne concerne pas chaque Français qui vous écoute.
Non, non, absolument.
Vous avez fait une proposition aussi d'exonération des transmissions jusqu'à 200 000 euros par parent.
Voilà.
Et par enfant, tous les 10 ans.
Bon, ben voilà.
Et ça ne concerne que 2,5% des Français.
Je sais bien, pas beaucoup. Mais je sais bien, mais on a, jusqu'à présent, c'était 100 000 euros. On a augmenté le plafond.
Merci Gérard de nous avoir appelé. Alba, une question politique.
Oui, je voulais vous demander, Valérie Pécresse est très haut dans les sondages, elle a fait une nette progression après la primaire. Elle est largement préférée à vous et à Marine Le Pen d'ailleurs. C'est un obstacle dans votre campagne sur bien des sujets. Vous dites la même chose.
Alors, largement préférée, vous exagérez. Dans le dernier sondage, je crois qu'elle a un point de plus que Marine Le Pen, qui a même un point de plus que moi. Ça, c'est la marge d'erreur dans les sondages. Donc, on est en fait à égalité. Et après les primaires, tous les vainqueurs de primaires ont une progression soudaine et forte.
Et la seule candidate, pardonnez-moi, a figuré au second tour face à Emmanuel Macron.
Oui, ça, c'est autre chose.
Oui, mais c'est quand même très important.
Ah, vous avez raison.
Ça change la donne.
Non, non, vous avez raison. C'est un point, mais c'est différent. C'est ça que je voulais dire. Ça, vous avez raison.
C'est un obstacle dans votre campagne.
Vous savez, quand vous dites, et c'est ce que j'allais vous dire, vous dites, elle dit la même chose que moi sur « je ne crois pas ». Je pense qu'elle a essayé de reprendre la musique de ce que je disais, mais elle ne reprend pas les paroles. Regardez dans le détail ses propositions. En vérité, elle lutte par exemple contre l'immigration clandestine. Mais contre l'immigration légale, elle ne fait rien. Elle ne propose pas la suppression du droit du sol. Elle ne propose pas le fait que la solidarité nationale redevienne nationale. Elle ne propose pas qu'on supprime le droit au regroupement familial. Elle parle même, elle est favorable à des quotas d'immigrés. Vous savez, elle a proposé ça. Qu'est-ce que c'est des quotas d'immigrés? Ça veut dire de l'immigration en plus, en vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans les 275 000 entrées légales dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez combien il y a de gens qui viennent travailler? 14% qui viennent pour travailler sur ces 275 000. Donc elles vont en rajouter, en vérité, Madame Pécresse.
Mais ça veut dire qu'elle n'est pas une difficulté pour vous.
J'ai pas dit ça. Elle a un parti ancien, elle a des élus partout, elle a un appui médiatique manifeste. Donc, je n'ai jamais dit que ce n'était pas un obstacle. Vous savez, moi, je me lance dans cette bataille, j'ai beaucoup d'obstacles, c'est normal. Je suis un nouveau venu dans ce monde-là. Mais je pense que les Français comprendront que Mme Pécresse est profondément, vous savez, Mme Pécresse, elle a dit tout et le contraire de tout. Elle a signé une tribune avec Rokhaya Diallo en faveur du multiculturalisme. Elle a promu les valeurs LGBT. Vous savez, Madame Pécresse, c'est une chiracienne. Il faut bien comprendre, les chiraciens, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les places sont toujours plus importantes que les convictions. Et les chiraciens sont prêts à promettre tout et n'importe quoi et à ne jamais rien tenir. Vous savez, c'est la fameuse formule, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Madame Pécresse est de cette école-là. D'ailleurs, elle ne le cesse de le répéter.
On va écouter maintenant Brigitte, qui nous appelle du département de l'Essonne, 91. Bonjour Brigitte, Éric Zemmour vous écoute.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Zemmour.
Bonjour madame.
Alors moi je vous appelle car je suis infirmière. Mm-hmm. Point de suspension. Je suis plus précisément infirmière libérale, mais je vais aussi dire que je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire la profession d'infirmière en général. J'ai simplement une question très directe. J'ai quitté moi l'hôpital il y a 20 ans, c'était déjà le même bordel. Pardonnez-moi ce langage, mais les Français parlent comme ça. Vous le savez bien.
Ah bah oui, je le sais, mais moi on me le reproche quand je fais comme vous, alors voyez.
Quel est donc, mais c'est pas grave, quel est donc monsieur, puisque vous êtes nouveau sur la scène politique, quel est donc monsieur, votre coup de baguette magique qui peut aider les infirmières? Je rajoute juste une petite chose, c'est que nous les infirmières libérales avons souffert également beaucoup. On est là 7 jours sur 7, tout est fait pour qu'on arrête, pour se réfugier dans les maisons de santé, ou alors retourner à l'hôpital. Que pensez-vous faire pour que l'hôpital ne devienne plus une boîte à fric et que nous soyons peut-être plus reconnaissants? Je rappelle que nous avons été habilités à vacciner au mois d'avril après les vétérinaires.
comptez-vous notamment faire quelque chose pour les salaires des infirmières? Est-ce que c'est prévu dans votre programme économique?
J'ai parlé tout à l'heure des salaires de tous les Français à faible salaire. Donc les infirmières sont évidemment comprises dans cette catégorie-là. Donc ce que je propose sur la CSG concerne les infirmières et d'autres.
Jusqu'à quel niveau parlez-vous de faible salaire? 2 000 euros.
Le salaire médian, c'est le salaire médian.
Oui.
Deuxièmement, pour l'hôpital, je pense que nous souffrons de multiples maux. Le premier, c'est la bureaucratisation excessive des structures hospitalières. On a à peu près 30 à 35% de non-soignants dans les hôpitaux. Je crois qu'en Allemagne, c'est 20%. Je propose donc la suppression des ARS qui ont montré leur inanité et de remettre la responsabilité de la politique hospitalière sous l'autorité du préfet de région avec les médecins à l'hôpital et les préfets des départements. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je propose aussi un grand plan d'investissement pour l'hôpital. Troisième chose, je suis favorable à ce que la médecine soit... on arrête de concentrer tout sur l'hôpital. Je pense que le grand problème français, c'est que l'hôpital est au cœur de tout et que l'hôpital est submergé. Il est submergé dans les urgences. C'est pour ça que j'ai proposé le rétablissement de la garde des médecins libéraux, qui va alléger les urgences. Et dernière chose, dans ce système qui est submergé, la part de l'immigration est très importante. Tout le monde le voit, tout le monde va à l'hôpital, tout le monde voit ça. Et donc, il faut cesser cela. Et donc, il faut absolument que nous réglions la question d'abord de la fraude sociale. Et c'est pour ça que je suis pour les cartes vitales biométriques que le gouvernement et que l'Assemblée, la majorité En Marche, a refusé. Donc, vous voyez, et je suis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les allocations sociales soient réservées aux Français.
Merci Brigitte. Sabine vous appelle, elle, de 7, et elle va vous interroger. Bonjour Sabine, merci beaucoup d'écouter RTL.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour madame.
Bonjour. Moi, je voulais savoir... Alors, je fais partie de la fonction publique, catégorie C. Je me demandais quelle réforme sociale... Alors, quand je parle de sociale, c'est sécurité sociale. C'est aussi tout ce qui est chômage, puisqu'on sait que depuis le 1er décembre, ça a attiré les chômeurs vers la précarité encore plus. Et ainsi que la réforme des retraites qui nous pend au nez depuis longtemps et qui a rendu très populaire M. Macron. Ça, c'est ironique, par contre.
Oui, on a bien compris.
On l'avait compris.
Retraite et sécurité sociale, quels sont vos propos?
Je voulais dire pour l'hôpital, pour finir, parce que j'ai oublié, c'est très important. C'est la sécurité. C'est-à-dire que je pense de plus en plus il y a des agressions à l'hôpital et il faut absolument régler cette question aussi. Voilà. Je voulais dire que c'est un point fondamental et qu'on oublie toujours. Maintenant, pour la réponse à la question de madame, j'ai dit tout à l'heure donc ma réduction de la CSG qui est une augmentation du salaire net.
Oui.
Bon. Je pense aussi, je proposerai aussi vous savez, vous connaissez, on parlait de la France périphérique tout à l'heure, vous connaissez les systèmes de la carte Navigo qui est remboursée à moitié par les employeurs.
Oui.
Je proposerais pour tous les gens de la France rurale et de tous les petits salaires qui prennent leur voiture pour aller travailler, le même système. C'est-à-dire que l'employeur remboursera la moitié des frais kilométriques, des frais d'essence de leurs salariés. Vous voyez, ça, c'est une mesure importante. Par ailleurs, je proposerai aussi, dans le cadre de la politique familiale, le fait qu'on supprime les réformes de M. Hollande qui ont réduit les allocations familiales, qui ont réduit l'universalité des allocations familiales, et je doublerai le plafond du quotient familial. Vous voyez, je pense que ce sont des mesures importantes. Par ailleurs, je vais vous faire plaisir, ici à RTL, je propose aussi la suppression de la redevance télévision qui coûte quand même 168 euros et qui permettra ainsi...
Comment vous faites vivre le service public?
Ah ben je le privatise, en particulier France Inter et France Télévisions.
Vous avez bien réfléchi à ce que vous venez de nous dire.
Ah, j'ai bien réfléchi, oui.
Bien. Alors, une dernière question, elle sera posée par Grégory. Bonjour Grégory, vous appelez de
bonjour.
Paris.
Bonjour Yves Calvi, Madame Ventura.
Bonjour.
Et bonjour Éric Zemmour.
Bonjour monsieur.
Alors, moi, très rapidement, avant de poser ma question, j'aurais voulu dire que je soutiens beaucoup Éric Zemmour. C'est quelqu'un, et j'en ai ras-le-bol qu'on salisse, parce que pour moi, Éric Zemmour n'est pas un raciste du tout. On le fait passer pour un raciste, pour un tout ça. Non, il n'est pas misogyne. Voilà, je tenais à le dire.
Et votre voilà, question, écoutez, s'il vous plaît, Grégory.
Bien sûr. Alors moi, ma question, c'est quelque chose que Éric Zemmour a très peu parlé. Je sais qu'il a le soutien de Brigitte Bardot. Et donc, en ce qui concerne les animaux, parce que c'est très important, j'aurais voulu savoir quelle est, s'il est président de la République, quelle est ses intentions sur la protection animale.
Est-ce que la protection animale est une priorité pour vous? Est-ce que vous y avez réfléchi, Éric?
Alors, je sais que ce monsieur a raison. Je suis en relation avec Brigitte Bardot qui m'honore de son amitié, de son affection. Elle a même dit qu'elle voterait pour moi car elle avait compris l'importance de, pour la survie de la nation.
Grégory vient de le rappeler. Et elle dit, sa question, oui, c'est que comment vous faire pour la condition animale.
J'allais dire, parce que justement, je suis honnête avec vous, qu'elle me taquine souvent parce qu'elle trouve que je ne suis pas assez concerné par la condition animale. Donc, je ne serai jamais aussi concerné qu'elle, je l'avoue, mais je comprends je comprends très bien les légitimes craintes des gens qui défendent la condition animale, en particulier face aux élevages industriels, face aux élevages en batterie, face à cette férocité inutile sur les animaux. Je ne vois pas. On doit pouvoir effectivement avoir un élevage plus tout simplement, j'allais dire civilisé.
Stop au foie gras dans les réceptions.
Non. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le militantisme. Il faut effectivement considérer l'animal comme un être vivant, avec une sensibilité, etc. Et donc, il est inutile et vraiment, il est scandaleux d'être cruel avec lui. Mais ce n'est pas, on ne va pas tomber dans le militantisme anti-viande, anti-vegan. Ça, ce n'est pas pour moi.
Merci beaucoup Éric Zemmour, en tout cas, d'être venu faire votre petit déjeuner de campagne aujourd'hui sur RTL.
Merci.
Vous êtes où de votre vaccination avant de nous séparer? Vous avez fait votre appel?
Écoutez, j'ai pas fait ma troisième dose. Et apparemment, je vais me faire gronder par Alba.
Oui.
Mais merci de nous le dire maintenant, parce que nous sommes enfermés avec vous.
Mais j'ai passé un test hier pour rentrer d'Arménie, puisque je suis allé 3 jours en Arménie, et je suis négatif. Je tiens à vous le préciser quand même pour vous rassurer.
Bonne journée à vous, Eric.
Merci à vous
d'être venu ce matin participer à ce petit déjeuner sur l'antenne d'RTL. Louis Bodin, il est l'heure de nous préoccuper de notre météo à 7 jours.
Oui, avec effectivement les conditions anticycloniques qui persistent, qui restent bloquées sur la France, et au cours de ces prochains jours, ça va être toujours la même chose. Donc on va surveiller les nuages bas, les brouillards présents le matin, et puis ça se dissipera plus ou moins l'après-midi. Alors c'est vrai que pour l'instant, ça se dissipe pas dans la moitié nord, ça le fait dans le sud, hein, où on retrouve souvent du soleil l'après-midi, sauf autour de la vallée de la Garonne. Donc ça, c'est vrai pour demain, c'est vrai pour après-demain. Et puis pour le week-end, quand même, je vais être un poil plus optimiste dans la moitié nord, où après les nuages bas, les brouillards du matin encore présents, hein, on aura toujours les conditions anticycloniques, toujours pas de pluie, pas de perturbation. Eh bien, ça devrait quand même finir par se veiller. Un petit peu de brassage de cette humidité. Donc, on peut espérer dans la moitié nord revoir un peu le soleil quand même en fin de semaine, entre samedi et dimanche. En revanche, ce sera au prix de températures en baisse. Donc, les gelées seront beaucoup plus fréquentes qu'en ce moment dans la moitié nord. Et les températures de l'après-midi resteront souvent bloquées entre 4 et 6, 7 degrés grand maximum. Donc, à peine de saison, voire un peu en dessous, sera à peine mieux dans les régions du sud. Et puis, ça, je le prolonge en début de semaine prochaine, au moins jusqu'à mercredi.
Petite question égoïste, la neige est bien stabilisée dans
Alors,
les
montagnes. Alors, la neige est
totalement... J'ai reçu des photos sublimes de Val d'Isère. Voilà. Enfin, bon, voilà.
Non, mais c'est ça.
Les portes du soleil.
Il y a des quantités de neige qui ne fondent pas, en tout cas, en moyenne montagne. Et ça va être comme ça, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Il y a des moments où je vous aime beaucoup.
Ah, merci.
Il est 8h43. Merci Louis d'avoir été avec nous ce matin une fois de plus. Dans quelques instants, c'est Laurent Gérard que nous aimons aussi infiniment et Jade qui sont avec nous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous.
Bonjour.
Ah, bah aussi, Pascal Pro. Mais qu'est-ce que vous faites en tenue de cycliste avec un sac Deliveroo?
Je suis venu livrer des croissants, des pains au chocolat et du bon café bien chaud à votre invité des petits déjeuners de campagne, le très probable futur président de la République, l'excellent Éric Zemmour.
Et ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, tout ce qu'il faut pour lui.
Je vous connais, vous autres, les journalistes de gauche. Vous êtes capables de l'empoisonner. Faites-moi passer les chouquettes que vous comptez lui offrir. Je serai le goûteur officiel du très probable futur roi de France, extraordinaire Éric Zemmour.
Vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu beaucoup avec Éric Zemmour, hein ? Alors, présentez-nous plutôt le sommaire des auditeurs en la parole.
Je poserai la question suivante aux auditeurs. Avez-vous trouvé ce matin Éric Zemmour convaincant, très convaincant ou très 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 convaincant? Je pose la question au 3210.
Bon, ça va finir par se voir là. Merci Pascal Praud.
J'ai pas fini, je poserai également aux auditeurs cette question. Pensez-vous qu'Éric Zemmour fera un bon président, un très bon président ou le plus grand président de tous les temps? Je pose la question au 3210.
D'accord, on vous laisse à votre émission l'heure des pros sur CNews. Quels seront vos intervenants ce matin?
Un plateau varié et impartial avec Jacqueline Zemmour, Jean-Pierre Zemmour et Kevin Zemmour.
Très impartial en effet.
Absolument, car nous aurons aussi sur le plateau Laurent Geoffrin, que j'ai attaché à une chaise et obligé à écouter le petit déjeuner de campagne d'Éric Zemmour. Depuis, il fait de l'urticaire, il se gratte de partout, c'est hilarant.
Mais du con, il est où Gargamel?
Oui, bonjour Jean Lassalle, de qui parlez-vous?
Je parle d'Éric Zemmour, le voleur, le pilleur, le pickpocket. Il est chez vous depuis ce matin. Je vous conseille de vérifier vos poches. À tous les coups, vous appliquez votre passe Navigo, vos cachous la jaunie, ou même les clés de chez vous.
Ah, je vois de quoi vous voulez parler. En effet, vous l'accusez de vous avoir volé votre logo, le R de Reconquête. Le mouvement d'Éric Zemmour ressemble, c'est vrai, au R de Résistons, votre parti, Jean Lassalle.
Mes chers compatriotes, de France et d'outre-mer, chère mademoiselle Jade, honorable monsieur Calvi, J'accuse en effet monsieur Zemmour d'avoir volé mon air. Il ne manque pas d'air d'avoir volé mon air. Alors pourquoi il a volé mon air s'il ne manque pas d'air?
D'accord, alors en même temps, rien ne ressemble plus à un R majuscule et un autre R majuscule.
C'est vrai. Justement, c'est là que le bas blesse. Le Zemmour, il est gaulé comme un asticot. Dans une équipe de rugby, personne n'en voudrait, à part pour faire les poteaux. Il aurait donc dû prendre un R minuscule.
Ah.
Et me laisser le R majuscule à mon hasard. Je fais le double de sa taille, bout du con.
Comment allez-vous régler ce litige?
Je demande solennellement à ce bourricot de Zemmour de changer de lettre. Entre C comme copieur, P comme plagiat, V comme voleur. Il a l'embarras du choix au bout du camp.
Oui. Vous n'avez qu'à lui demander vous-même.
Oui.
Il est juste à côté, là. Il n'est pas loin.
Il est à côté. Mmh. Il est à côté, là. Alors je vais demander à Isabelle Morini-Bosque et à Alba Ventura de l'immobiliser. Pour le saucissonne, je vais passer à la question.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est ma chèvre.
Oui.
Et alors?
Quête Blanchette. Allez, allez, enlevez les chaussures et les chaussettes du voleur. Quête Blanchette va lui lécher les pieds. Comme pour faire d'elle. Et c'est bon, finira par avouer son forfait, bout du con.
Il faudra de l'eau salée.
Bonjour, madame.
Ah, bonjour, Marine Le Pen.
Tiens, je vous ai amené une bougie parfumée relaxante, nature et découverte, madame.
C'est gentil, mais pourquoi?
Je sens des tensions dans ce studio depuis ce matin. J'ai l'impression que quelqu'un a diffusé de mauvaises ondes.
Ah, j'ai compris. Vous parlez de la présence d'Éric Zemmour à notre petit déjeuner de campagne.
Vous voulez un massage? Parce que là, je vous sens tendu comme un string. Ce petit bonhomme rend nerveux tout le monde, madame. Regardez ce pauvre François Langlais. Depuis qu'il lui a parlé, il a perdu tous ses cheveux.
Non, ça ne date pas de son face-à-face avec Éric Zemmour, non. Toujours est-il que de nombreux analystes estiment en effet que les excès d'Éric Zemmour vous rendent plus acceptable. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument. Éric Zemmour est tellement extrême dans ses propos qu'à côté de lui, même mon père passerait pour un grilleur de merguez à la fête de l'humain.
Vous pensez vous être enfin débarrassé de la malédiction qui pesait sur votre nom de famille?
Tout à fait. Grâce à M. Zemmour, le nom de Le Pen est devenu trendy, madame.
Trendy?
Trendy.
Oui, mais oui, trendy.
Oui, trendy.
D'ailleurs, je suis en train de le développer comme une marque. Je vais lancer des t-shirts et des mugs Le Pen. Ça m'aidera à financer ma campagne. Tenez un petit cadeau pour vous.
Encore? C'est gentil. Et qu'est-ce que c'est?
Une coque de téléphone, madame. Avec la coque Le Pen, mon iPhone reste zen.
Ah ben merci beaucoup, mais j'ai déjà une coque d'iPhone RTL. RTL, je t'aime. Bonne journée, madame Le Pen.
Ah oui, à vous aussi. Sur ce, je vais essayer de trouver Cyril Lignac. Pour que je lui parle de mon projet de brownie Le Pen.
Ah, un brownie Le Pen?
Oui, le brownie Le Pen, 100% plaisir, zéro gluten.
On en parlait ce matin avec lui suite aux divers incidents qui ont émaillé son début de campagne. La sécurité policière autour d'Éric Zemmour a été renforcée. Et nous vous révélons en exclusivité que c'est maintenant une brigade de gendarmes expérimentés venue directement de la Côte d'Azur qui s'en charge. Reportage.
Garde à vous, messieurs, messieurs, j'exige toute votre attention. Notre ministre, Gérald Darmanin, vous a confié une mission de la plus haute importance. Assurer la protection du polémiste Éric Zemmour. Et chef, s'il se fait agresser par des jeunes filles de SOS Racisme, comme à Villepinte, je veux bien les plaquer au sol, moi, et leur enlever leur t-shirt insultant. Un peu de tenue, Fougas, un peu de tenue. Dois-je vous rappeler que des militants de la Manif pour tous ont rejoint les rangs de ce monsieur Zemmour?
Je doute
que ces bancs catholiques apprécient beaucoup votre zèle. Alors, dites-moi plutôt où est passé Cruchot.
Il s'est fondu dans la foule, chef.
Il est là. Macron, et ses têtes sont dans la rue. Zemmour, à Versailles, Macron, en Allemagne. Je vous en prie, madame, circulez et laissez-nous remplir notre mission. C'est moi, mon adjudant. Mais dites donc, ce collier de perles, ce tailleur rodier, ces lunettes de notaire, ces têtes de grenouille de bénitier, mais c'est le signalement de Christine Boutet. Mais non, c'est moi, Cruchot, regardez ma perruque, Frizy. Hop, et voilà, c'est moi.
Ah, mais pourquoi ce déguisement, Cruchot? Pourquoi?
Alors voilà, mon adjudant, pour neutraliser les éléments extrémistes venus pourtant dans le bras des Zemmour, je me suis dit que le mieux serait de me glisser derrière le candidat complètement, mais alors complètement incognito. Alors, je me suis donc déguisé en Christine Boutin, qui soutient Zemmour.
Alors, au rapport, Cruchot, au rapport.
Alors, j'ai repéré une fille suspecte.
Alors, très suspecte.
Très agitée, très agitée. Toujours derrière le candidat. Voilà, à tous les coups, une journaliste extrême gauche. Alors, j'ai mis en confiance avec des chansons antifa. Et alors, et au moment, oui. Vous avez voulu s'approcher d'Éric Zemmour, la craque, isolé, paf, un coup de matraque, c'est une giclée de lacrymo dans les yeux. Regardez, elle est là, mon adjudant. Ah, mais c'est Sarah Knafo, la conseillère très particulière et très rapprochée d'Éric Zemmour. Vous l'avez gazé. Si Zemmour est élu, il va me faire muter la protection du mausolée de Pétain à Vichy.
Ah là là, merci à toute l'équipe, on a passé un excellent moment. On vous retrouve sur le site rtl.fr et puis bien entendu, à tout moment, vous savez que vous pouvez retrouver ces chroniques. Demain matin, toute l'équipe sera là au rendez-vous. Je vois la réalisation me fait oui. Mais ben alors, monsieur Laverdin, vous êtes d'accord?
Oui.
Je l'espère bien. Et dans un instant, c'est Cyril Lignac qui est avec nous.
Ça va, mon Cyril?
Ça va super.
Bon, de quoi on va parler ce matin?
D'une sauce pour manger à l'entrecôte.
Ah,
ça c'est bien.
La fameuse sauce.
Bah, on va essayer en tout cas.
Oh là là là, c'est un secret, me disait.
Et oui, c'est un secret.
Moi, mon père m'emmenait quand j'étais gamin dîner à l'entrecôte. Et alors là, on attendait la sauce et les frites.
Et oui.
À tout de suite.
Toute cette semaine, à l'occasion des fêtes de fin d'année, tous les auditeurs qui passent sur l'antenne de RTL gagnent un lot de chocolat Jeff de Bruges contenant en tout plus d'un kilo et demi de gourmandises pour vous régaler à Noël.
De bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin, Yves Calvi.
Faut-il rappeler, cher Cyril, que vous nous régalez chaque matin sur RTL. Aujourd'hui, c'est Romane qui vit à Colbar, département 68, qui aimerait connaître la recette de la fameuse utilisée dans le restaurant L'Entrecôte. Elle est vraiment trop bonne et j'aimerais pouvoir la refaire. C'est une question que je me pose depuis 40 ans. C'est une question que je me pose depuis 40 ans.
Moi aussi, c'est une question que je me pose depuis.
Alors, bon, vous avez travaillé
40 ans aussi.
C'est une chaîne qui existe depuis 1959 et qui compte plusieurs restaurants en France, je le rappelle.
Oui, voilà. Et alors, du coup, cette sauce. Traditionnelle que tout le monde aime, je crois que j'ai pas un copain chef qui a pas essayé de trouver la recette. Donc c'est assez amusant parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans.
Non.
Ce que l'on sait, c'est qu'il y a de la moutarde.
Oui.
Ça, c'est, alors moi je m'amuse au jeu des devinettes. Oui, à chaque fois, est-ce qu'il y a de l'anchois? Oui. Je suis allergique. Alors ça me dit non, il y en a pas. Et petit à petit, je coche les cases. Et bon,
mais oui, ça m'étonne pas de vous. Donc il n'y a pas d'anchois.
Non, il n'y a pas d'anchois.
Moi j'étais convaincu qu'il y en avait. Très
alors,
bien, voilà.
Une cuillère de moutarde, une cuillère de jus de citron. Mm-hmm. Pour moi, c'est un petit beurre monté. Donc dans le beurre, on fait fondre du beurre, on mélange de l'herbe. Il doit y avoir du cerfeuil, du basilic, de la sauge, un peu d'estragon et de cerfeuil. Et là, on mélange un petit peu notre beurre fondu. On le monte un petit peu comme une marinade, parce que la sauce est émulsionnée quand même.
Oui.
Donc elle est fouettée avec cette moutarde et ce jus de citron légèrement. Mmh. Et ensuite étendue avec un petit peu d'eau, à mon sens, parce que l'eau permet de fixer en fait.
Ah.
C'est-à-dire que quand par exemple vous voulez faire une très bonne mayonnaise, vous montez une très bonne vinaigrette, pardon, qui n'a pas de stabilisateur à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de jaune d'œuf, vous faites chauffer un petit peu d'eau, vous mettez dedans, vous allez voir votre vinaigrette, elle gonfle. Et là, la sauce, elle tient, à mon sens, parce qu'il y a ce petit peu d'eau chaude. Maglesguy sort de ce corps.
Cerfeuil, basilic, sauge, estragon, cerfeuil, pour le mélange d'herbes. Moutarde, jus de citron et un peu d'eau.
Alors, ce ne sera jamais la même, parce que c'est une sauce secrète, mais on n'est pas loin.
En tout cas, ça donne faim. Et vous pouvez retrouver, vous qui nous écoutez, la recette sur le site RTL.fr. Cyril, on vous connaît, vous êtes généreux, comme nous tous d'ailleurs ici à RTL. C'est pourquoi je vais profiter de votre présence pour offrir 100 000 euros. J'ai bien dit 100 000 euros. Mais oui, cher Cyril.
C'est pour moi.
À nos auditeurs. Non, c'est pas pour vous.
Alors,
vous qui nous écoutez, attention, précipitez-vous. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire. Appelez le 3210. Je vous rappelle que c'est 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Le tirage au sort se déroule en fin de matinée avec Julien Courbet. Et jeudi, un envoyé spécial RTL ira à la rencontre du gagnant et vous remettra le fameux chèque de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on s'engage totalement. Bonne chance à vous tous. 3210 par téléphone ou SMS en envoyant RTL au 74 900. Dépêchez-vous, il vous reste maintenant de l'ordre de 4 minutes 30.
Ah oui.
Nous vous offrons 100 000 euros ce matin. Ça vous va?
Ah mais moi je suis content.
Eh ben on va faire le point de l'actualité. Il est 9h01.